SBS Audio is supported by advertising.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre travailliste Paul Keating qui a dirigé l'Australie au début des années 90. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bon alors, on continue de dérouler un peu le CV de Paul Keating. Il va faire une première entrée au gouvernement en 73, c'est donc dans le gouvernement de Gough Whitlam, dont on a déjà parlé, qui est bref, mais qui termine une très très longue période de gouvernement conservateur. Alors, on l'a dit, il est destitué en 75, donc moins de 3 ans plus tard, et c'est à ce moment-là, paradoxalement, que Paul Keating va vraiment commencer à se faire un nom, puisqu'il va devenir une figure majeure de l'opposition, donc l'opposition travailliste. Et on en a parlé en introduction, c'est vraiment à cette période, vers la fin des années 70, début 80, que on repère Paul Keating, le sniper, l'homme à la répartie la plus cinglante. C'est là qu'il émerge. Dans ce personnage, en tout cas.
Et effectivement, c'est important. Il est ministre très brièvement, en réalité, sous Whitlam, parce qu'il n'avait pas réussi. À l'époque, il était un peu jeune, et puis il y en avait d'autres devant lui, si vous voulez. Donc, il devient ministre à la toute fin du gouvernement Whitlam. Je crois que c'est octobre-novembre 75, donc 2 mois, très rapide. Et il est ministre de ce qu'on appelle à l'époque l'Australie du Nord. Et en fait, sous ce terme parapluie, l'allusion, c'est celle des ressources. Parce qu'on est vraiment au tout début de la période où l'Australie veut s'ouvrir et commercer avec l'Asie, puisque la Chine va commencer son grand boom. Donc il va falloir organiser l'extraction des ressources, que ce soit le gaz, le pétrole et surtout le charbon, l'acier, etc. Donc en fait, je vous ai dit qu'au tout début, quand il y avait 14-15 ans, enfin un peu plus tard, 16 ans, il s'occupait du service des fils de paix pour une compagnie d'électricité. C'est quelqu'un qui a toujours été très bon en maths et qui s'est toujours posé la question des allocations de ressources. Et donc c'est assez cohérent avec son parcours personnel qu'il devienne cette espèce de ministre des ressources qui n'est pas déclaré. Et une fois que Whitlam perd le pouvoir en 75, enfin qu'il est défait de ses fonctions de Premier ministre par le gouverneur général John Kerr, le représentant de Sa Majesté la Reine Elizabeth sur le territoire australien, et le chef de l'État, qui n'est pas le Premier ministre en Australie, on l'a rappelé plusieurs reprises, Keating devient officiellement le ministre pour les minerais, les ressources et l'énergie, mais dans le shadow cabinet. En Australie, comme c'est un système de Westminster, l'opposition donc forme ce qu'on appelle le shadow cabinet, qui est le ministère de l'ombre, si vous voulez, qui viendrait remplacer celui du gouvernement si le gouvernement tombait et qu'il y avait une alternance politique. Donc, et c'est comme ça qu'ils préparent en fait les futurs ministres en leur confiant déjà les manettes d'un poste qu'ils pourraient peut-être occuper s'ils sont élus. Tout ça pour dire que Keating occupe ce poste de ministre de l'ombre pour les minerais, les ressources et l'énergie, ce qui lui permet pendant des années de se connecter au milieu financier en Australie. Et ça, c'est très très important parce que il vient de la gauche et c'est pas là où on les attend nécessairement. C'est quelqu'un qui s'informe, qui lit, qui voyage beaucoup et qui rencontre pas mal de dirigeants dans les mines, dans le pétrole, bref, tous ces milieux économiques, qui fait que plus tard, ces milieux-là n'auront pas peur à ce qu'ils deviennent un premier ministre de gauche. Donc il fait ses armes.
Et donc, Paul Keating arrive au gouvernement en même temps que Bob Hawke en 1983. Et comme on l'a dit au début et dans les épisodes, dans l'épisode précédent consacré à Bob Hawke, cette fois, c'est avec le poste le plus important au sein du gouvernement, autre que celui de Premier ministre, c'est ministre des Finances. On va pas revenir dessus trop longuement parce qu'on en a déjà parlé donc dans l'épisode sur Bob Hawke, mais en gros c'est un duo très efficace qui fonctionne très bien. Ils vont mettre en place tout un tas de réformes assez libérales, des privatisations, etc. Enfin bref, des réformes qui ressemblent pas beaucoup à un gouvernement de gauche, mais c'est peut-être l'air du temps qui veut ça. Toujours est-il que ces réformes semblent montrer quelques résultats puisque en 1988, donc ça fait déjà cinq années que les travaillistes sont au pouvoir, et les deux années suivantes également, le budget du gouvernement australien va être en excédent, et avant 1988, ça n'était jamais arrivé.
Alors il y a plusieurs choses à reprendre. Pour le duo, effectivement, on en a parlé dans le podcast sur Bob Hawke. Pour donner une comparaison, si vous voulez, alors pas du tout du même côté politique, mais Bob Hawke, c'est un peu le Jacques Chirac australien. C'est-à-dire que voilà, il passe bien dans les foules, il serre des mains, boit du vin, et il a une personnalité assez attachante. Si bien que quand Bob Hawke, qui vient du syndicalisme, qui n'a pas fait les classes du Parti travailliste comme Keating, lui passe devant. Keating est très intelligent. Il aurait pu essayer de bloquer la voie. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait essayé de faire au tout début. Mais il s'est rendu compte qu'en réalité, Hawke avait beaucoup plus de chances de succès dans une élection parce qu'il était populaire. Et Keating est un peu, si on utilise l'analogie Chirac, Keating est un peu... Le baladur de l'époque, un peu froid, un peu austère. Donc il sait qu'en fait le temps n'est pas venu pour lui. Donc de façon très intelligente, il s'allie à Bob Hawke et lui voue vraiment une loyauté qui est extrêmement rare en politique, au moins sur les premières années, parce qu'effectivement comme baladur, il va finir par dire bon, il y en a assez, moi aussi je veux devenir premier ministre, en l'occurrence pour Keating, était président pour Balladur, sauf que Keating a réussi et pas Edouard Balladur. Tout ça pour dire que pendant quelques années, ces deux-là travaillent de concert. Hawke a la génération d'une partie de l'électorat australien, une personnalité qui passe très bien, et derrière, au bureau, l'acharné de travail, c'est Paul Keating qui s'occupe à refondre l'économie australienne. Et il faut dire que l'économie australienne, à l'époque, c'est pas du tout celle qu'on connaît. C'est une Australie qui est très très peu compétitive. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dans les années 70, vous importez des Toyota, vous avez les vitres électriques. Hein. Bon, bah dans les années 80, chez Holden en Australie, il n'y a toujours pas les vitres électriques, enfin sauf sur des modèles plus performants. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Australie vit derrière des barrières tarifaires, ce qui fait qu'elle a protégé son économie et qu'elle est peu compétitive sur la production, que ce soit automobile ou sur plein d'autres choses par ailleurs. Donc elle est un peu en retard. Les pertes d'emplois qu'on a vues dans les années 80 en France et au Royaume-Uni, par exemple, sont liées à cette libéralisation du secteur. Et l'Australie a essayé de se protéger, mais c'est plus tenable. Et donc, le gouvernement de gauche libéralise. Et sous Keating, il y a la privatisation de Qantas, il y a la privatisation de la Commonwealth Bank of Australia, la banque du Commonwealth australien. Il y a également le fait de que la monnaie, la valeur d'échange de la monnaie n'est plus décidée par le gouvernement, mais par les marchés financiers. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous intégrez l'économie mondiale et que vous acceptez les lois du marché plutôt qu'être une économie un peu, je vais pas dire communiste, c'est pas du tout le mot parce qu'à l'époque ça se faisait, mais une économie dirigiste, si vous voulez, où le gouvernement est interventionniste. Là, Paul Keating, en tant que trésorier puis en tant que Premier ministre, accepte la loi du marché. Alors au début, il y a un petit choc parce qu'il y a un moment d'ajustement, il y avait énormément d'inflation en Australie, et Paul Keating doit faire une politique un peu comme Mitterrand avait fait, c'est-à-dire on arrive, ça va être le triomphe de la gauche, et puis en fait, non, il y a un tournant de la rigueur. Et vous avez rappelé que il a un exercice budgétaire positif. Il y en avait eu dans les années 1900. Ben, c'est pour vous dire, il y a quasiment 90 ans avant lui. Et depuis, effectivement, c'était quasiment toujours un budget en déficit, comme le budget français en ce moment, hein, et depuis plusieurs décennies. Et là, Keating arrive, fait assez extraordinaire, quand Bob Hawke arrive au pouvoir, il hérite de la droite, je dis bien de la droite, je crois, un trou dans la caisse de plus de 10 milliards. Ce qui aujourd'hui, 10 milliards, voilà, c'est pas très grave, mais à l'époque, c'est absolument considérable. Keating arrive non seulement en quelques années à faire oublier ça, mais en plus à avoir de l'argent supplémentaire pour le gouvernement, puisque le budget est dans le vert. Donc, il est un peu vu comme un petit génie de la finance, ce qui permet au gouvernement Hawke d'amorcer tout un tas de réformes sociales dont on a parlé dans les épisodes précédents.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Three iconic Australians experience firsthand what it takes to save a life.
Oh my gosh.
Terrifying.
I have no idea what I'm about to do.
The Hospital in the Deep End starts 5th of March on SBS On Demand.
Alors, sur ce point, juste un autre aspect, parce que donc il a quand même été ministre des Finances, c'est intéressant de voir son bilan sur l'économie australienne. Ce genre de réforme, on sait que ça prend toujours pas mal d'années avant de se concrétiser, mais au cours de cette période de gouvernement Bob Hawke, il y a une petite récession en 90 et 91, ce qui reste assez courte, mais à partir de 91, l'Australie va entamer une période de croissance économique ininterrompue de 29 ans, qui va durer jusqu'à la pandémie de Covid en 2020, et un certain nombre de spécialistes l'attribue cette très longue période de croissance à aux différentes réformes mises en place par Paul Keating et également par Bob Hawke. Enfin, c'était le même gouvernement, quoi. Est-ce que, selon vous, ils ont raison ?
Ils ont raison dans l'absolu. C'est-à-dire que, est-ce que ces réformes ont été positives et ont contribué à des fondations solides pour une Australie dont l'économie est mondialisée ? La réponse est oui. Ça, c'est fin. Il n'y a personne qui va le débattre. En revanche, est-ce que c'est du fait de Paul Keating et de Bob Hawke en tant que personne ? Oui, c'est effectivement eux qui ont signé ces décrets, mais c'était dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps, et là où on le voit, c'est que sur un certain nombre de sujets économiques, finalement, le Parti travailliste était en accord avec le Parti libéral, le Parti de droite australien. Il y en a un qui va insister un peu plus sur la redistribution sociale, si vous voulez, mais de manière générale, sur les sujets macroéconomiques, il y a pas mal de réformes que nous associerions avec des idées de droite qui ont été faites par la gauche en Australie. Privatisation, libéralisation, etc. Et effectivement, boosté l'Australie à un moment où elle en avait besoin. C'était des réformes qui étaient assez inévitables et qui, si elles avaient été menées par la droite, auraient forcément causé un chaos social assez important, alors que en ayant été menées par la gauche, paradoxalement, puisque cette gauche du Parti travailliste était très syndicalisée et que Bob Hawke était un syndicaliste lui-même, eh bien il était absous en quelque sorte.
Ça a fait passer la pilule.
Voilà. Voilà. Les travailleurs savaient que Bob Hawke avait porté à cœur l'importance de la valeur du travail et la dignité du travail. Et donc, de ce point de vue-là, si vous avez un pédagogue qui vient expliquer, bon, ça va être dur, mais on en a vraiment besoin, et que par ailleurs, la fin des années 80, en Australie, vous avez des taux d'intérêt à 15, 16, 17%, parce que l'inflation est à 8 ou 9%. Donc, au bout d'un moment, les gens sont pas bêtes, ils savent qu'effectivement, il faut faire quelque chose. Et Keating a dit à l'époque que la récession de 90-91, c'était la récession que nous devions avoir. Ça leur est pas tombé sur la tête. C'est quelque chose qui, de toute façon, allait mécaniquement se produire parce que les prix galopaient, parce que les taux d'intérêt étaient très élevés et qu'à un moment, il y a un retour du balancier. Voilà. Et Keating a profité de ce retour du balancier pour armer l'économie australienne d'une législation qui la ferait entrer dans le 21e siècle. Et de ce point de vue-là, ça a fonctionné. Après, dans les années 2000, il y a le mining boom, l'énorme boom lié, à l'extraction de ressources en Australie. Ça, ce sont des facteurs que Keating n'aurait jamais pu prédire. Donc, est-ce qu'on peut lui donner crédit pour quasiment 30 ans de succès économique en Australie? Non. En revanche, est-ce qu'il a été très très important pour donner à l'Australie un cadre législatif pour l'économie qui l'a mise en place pour un succès certain? Oui, ça c'est indéniable. Et d'ailleurs, nombreux sont les gens du Parti libéral, donc de droite en Australie, qui reconnaissent les bienfaits des réformes sous Hawke et sous Keating.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la suite de cet épisode consacré à Paul Keating. On s'intéressera cette fois aux premières frictions entre lui et Bob Hawke, dont il est alors le ministre, des frictions qui vont conduire à prendre la tête du gouvernement australien. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Three iconic Australians experienced firsthand what it takes to save a life.
Oh my gosh.
Terrifying.
I have no idea what I'm about to do.
The Hospital in the Deep End starts 5th of March on SBS On Demand.